Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission gourmande de France Culture qui marie saveurs et savoirs, qui active papilles et méninges autour d'un fait culturel majeur, l'alimentation.
Madame, je tiens à vous dire que je suis prêt.
Prêt à quoi?
J'ouvre demain.
C'est moi aussi, et je suis prêt.
Vous êtes prête à servir du saucisson, des olives, des anchois, de la salade, et peut-être de temps en temps, les jours de fête, un œuf sur le plat.
Mais vous êtes prêt à réciter des recettes de cuisine sans jamais faire manger personne?
Madame, j'ai une proposition à vous faire, mais je préférerais vous parler à l'intérieur de la gargote.
Monsieur, le restaurant n'est pas encore ouvert. Et je ne veux pas qu'on me dévisage avant le jour de l'inauguration.
Bon, je m'assois ici. Madame, écoutez-moi bien et asseyez-vous donc pour m'écouter.
Le 18 avril 1974, disparaissait Marcel Pagnol, cinéaste, écrivain, l'auteur de La gloire de mon père, Le château de ma mère, Marius, Fanny, César, Jean de Florette, Manon des Sources, La femme du boulanger, La fille du puisatier, Panis, Topaz et de bien d'autres œuvres encore. Bon vivant, entouré de sa femme et de ses amis, Pagnol n'a eu de cesse de célébrer son pays, la Provence. Dans ses œuvres, on parle de bouillabaisse, de ratatouille, de tartines de pain au rove des Garrigues, mais Pagnol, c'est aussi un parler des collines, où il est question de coucourdes, de caques d'huile, de plats estouffa castagne, de gaoubi, de chicou, de chichourle, de cacané et d'assabouré. En cette année du 50e anniversaire de sa mort, nous avons eu envie, aux bonnes choses, de nous asseoir à la table de Pagnol, en compagnie de Frédéric Jacquemin. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes l'autrice de deux livres sur la cuisine dans l'œuvre de Marcel Pagnol. Le premier, c'était en 2011, à table avec Marcel Pagnol, 67 recettes du Pays des Collines. C'était aux éditions Agnès Viennot. Et en 2024, 90 recettes parfumées du Pays des Collines Bleues. C'est un vrai très joli titre. Hymne à Marcel Pagnol et c'est aux éditions La Maison. Et puis avec nous, au téléphone, se trouve Pascal Paris. Bonjour à vous.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, Pascal Paris. Vous êtes le chef du restaurant Le Cigalon à La Treille, sur les hauteurs de Marseille. Un restaurant qui a servi de décor principal au film éponyme de Pagnol, dont on entendait un extrait avec Michel Galabru, dans le rôle de ce chef qui refuse de cuisiner pour ses clients indignes de son talent. Est-ce que vous avez vu le film, Pascal Paris?
Alors, moi, j'ai vu les deux versions. La version de Marcel Pagnol.
En 1935.
En 1935. Et ensuite, la version avec Michel Galabru et Roger Carrel. Voilà, j'ai vu les deux versions. Et j'ai les deux versions dans mon restaurant aussi.
Et à quelle version ressemble votre restaurant?
Alors, à la version de 1935.
Même ambiance, même panorama, même plat?
Oui, et puis je pense que je déteins aussi sur Cigalon. J'ai de plus en plus, de moins en moins envie de faire à manger, mais que pour moi. Plus pour mes clients.
C'est embêtant pour un restaurateur.
Non, je plaisante.
Est-ce que vous nous décririez le paysage et le restaurant où vous êtes?
Alors là, il y a un temps magnifique. La terrasse
est en train
de se remplir parce que là, on est en plein service, donc on va débarrer le service. Donc j'ai un superbe beau temps, une vue panoramique extraordinaire. Et justement, dans le film, Cigalon, quand les clients demandent qu'est-ce qu'on a à manger, il dit « Regardez ce que vous avez à manger ça !» Donc, un superbe panorama. Donc, nous avons cette chance d'être à Marseille, sans être à Marseille.
Ouais, c'est ça. Frédéric Jacquemin, c'est des souvenirs d'enfance pour Marcel Pagnol, La Treille.
Oui, absolument. Lorsqu'il venait en vacances, donc il est né à Aubagne et puis ensuite il venait au mât de La Treille et c'est là justement que il pouvait rendre compte de tout ce panorama très olfactif, coloré, de toutes ces herbes, notamment loupèbre d'ail, un parfum mi-thym mi-menthe qu'il entêtait. Et là, c'était toutes les odeurs, les senteurs de la Provence.
Il passait ses étés dans le massif du Garlaban, qui surplombe Aubagne, sa ville natale. Et là, quel type de repas dans son escarcelle, on va dire?
Alors, tout dépend de ce qu'on va lire entre le château de ma mère, la gloire de mon père, le temps des secrets.
Qui sont ses œuvres autobiographiques.
Où il rencontre de son enfance et où justement on va avec l'oncle Jules pister des Bartavelles sans pouvoir les pister. Donc le jeune Marcel avait été finalement interdit de chasse, mais comme il lisait beaucoup et s'intéressait à la piste des Sioux, il part lui aussi sur la piste de son oncle et de son père. Et finalement il va pouvoir attraper ces fameuses Bartavelles. Et dans ses souvenirs, on entend souvent que sa maman Augustine donc lui prépare certaines soupes, lui prépare des desserts. Et donc toute cette œuvre de très grande jeunesse est pétrie de tout ça, et notamment des gibiers aussi, des petits oiseaux que son amie Lily Desbellon connaît tout à fait par cœur. Et il connaît aussi par cœur ce que c'est qu'une terre qui peut être aride, où on fait pousser finalement des pois chiches aussi et des haricots.
Vous évoquez, Frédéric Jacquemin, les Bartavelles de la gloire de mon père, roman donc autobiographique publié en 1957, adapté en 1990 au cinéma par Yves Robert.
Oui.
On a, grâce au talent de notre réalisatrice Louise André, retrouvé un extrait de ce livre lu par l'extraordinaire Hervé Pierre de la Comédie Française.
C'était des perdrix, mais leur poids me surprit. Elles étaient aussi grandes que des coques de basse-cour, et j'avais beau hausser les bras, leur bec rouge touchait encore le gravier. Alors mon cœur sauta dans ma poitrine. Des Bartavelles, des perdrix royales. Je les emportai vers le bord de la barre. Comme je traversais péniblement un fourré d'argéras, j'entendis une voix sonore qui faisait rouler les airs aux échos. L'oncle Jules venait de la rive d'en face, et il criait sur un ton de mauvaise humeur.
« Mais non, Joseph, mais non !» Il ne fallait pas tirer. Et venez vers moi. C'est vos coups de fusil pour rien qui les ont détournés.
J'entendis alors la voix de mon père, que je ne pouvais pas voir car il devait être sous la barre.
J'étais à bonne portée. Je crois bien que j'en ai touché une. Allons donc, répliqua l'oncle Jules avec mépris. Vous auriez pu peut-être en toucher une si vous les aviez laissées passer. Mais vous avez eu la prétention de faire le coup du roi et en doubler.
J'avoue que je me suis un peu pressé, dit mon père d'une voix coupable.
« Mais pourtant, dit l'oncle d'un ton tranchant, « vous avez bel et bien manqué des perdrix royales, aussi grandes que des cerfs-volants. Le plus triste, c'est que cette occasion unique, nous ne la retrouverons jamais. Et si vous m'aviez laissé faire, elle serait dans notre carnier. »
Je m'étais approché et je voyais le pauvre Joseph. Sous sa casquette de travers, il mâchonnait nerveusement une tige de romarin et hochait une triste figure. Alors, je bondis sur la pointe d'un cap de roche qui s'avançait au-dessus du vallon, et, le corps tendu comme un arc, je criai de toutes mes forces.
« Il les a tués, toutes les deux, il les a tués !»
Et dans mes petits poings sanglants d'où pendaient quatre ailes dorées, je haussai vers le ciel la gloire de mon père en face du soleil couchant.
Dans votre livre de recettes parfumées du pays des collines bleues, Frédéric Jacquemin, on retrouve les Bartavelles à loupé-bredaille, qui est l'équivalent de la sarriette.
C'est ça, c'est la sarriette. Donc, comme dit Marcel Pagnol, un parfum mi-thym, mi-menthe, donc qui embaume de façon assez prononcée quand même, tout ce qu'on peut cuisiner avec.
Ces petits oiseaux qu'aimait beaucoup Marcel Pagnol, on les retrouve sous la forme des alouettes sans tête au cigalon, Pascal Paris.
C'est un plat que nous avons depuis que je suis ici, c'est-à-dire, et puis bon, c'est un plat quand même provençal. Je l'ai sur ma carte, et c'est vrai que je fais les alouettes sans tête dans le paleron avec le petit salé, l'ail, le persil, et ça mijote pendant entre 3 et 4 heures, entre 82 et 92 degrés. Donc la sauce est vraiment confite, on les sert avec des spaghettis, et ça fait rappeler un petit peu notre enfance à tout le monde, parce que au moins une personne provençale a goûté déjà les alouettes ou de la maman ou de la grand-mère.
Seulement provençal, Frédéric.
Alors après,
Allez-y, Pascal, pardon.
Oui, pardon. Après, il y a différentes variantes de l'alouette sans tête. J'ai appris, il n'y a pas si longtemps que ça, sur le Vaucluse, on les fait au vin rouge aussi.
Ben comme quoi, ça peut varier, hein, même le rapport au terroir, il varie. Mais justement, est-ce que c'est seulement provençal, Frédéric Jacquemin? Est-ce que la cuisine de Marcel Pagnol, c'est d'abord et avant tout un rapport au terroir, et ce terroir, c'est celui de la Provence?
Eh bien, moi, je dirais que oui, parce que, si vous voulez, il fait référence dans toute son œuvre à des éléments qui sont issus de sa terre, à savoir l'eau. L'eau dans Manon des Sources, l'eau de la mer, et on sait que là, ça va être un enjeu extrêmement sociétal. Et en fait, cette œuvre est moderne parce que elle nous apprend avec Jean de Florette quelle est la valeur de l'eau. Et donc, Ugolin et le Papel et Soubéran vont détourner l'eau, mais de même que on pourrait s'interroger sur un détournement de l'eau actuellement pour des raisons financières qui sont tout à fait navrantes, alors que les agriculteurs en ont besoin. Donc il y a un véritable respect pour ce qui est les produits de cette terre-là, et les parfums, et les couleurs, et les odeurs. Et comme je disais dans le livre, on est à la fois peintre et organiste aussi, au sens où on va distribuer des senteurs, des parfums dans la cuisine. Et c'est une parfum du temps, qui se laisse mariner, macérer, goûter avec une très grande délicatesse. Et donc là, il y a un véritable respect de tous ces produits. Alors bien sûr, on les a dans les autres régions de France, mais je trouve que c'est particulier en Provence parce que c'est un pays qui jouit d'une hygrométrie, de changements climatiques, de problèmes de la terre aussi. Et donc c'est une œuvre aussi tout à fait moderne si on la lit sous l'éclairage de la gastronomie. Que la gastronomie aussi, c'est, je crois que c'était un de vos invités qui le rappelait, c'est la façon dont on parle de la nourriture.
On va y venir au langage.
Pas simplement les recettes.
On va évidemment y venir au langage parce que effectivement le rapport de Marcel Pagnol à la nourriture, c'est un rapport aussi gourmand que ses mots. Mais ça n'a pas empêché Marcel Pagnol de s'exporter, Frédéric Jacquemin, puisque à Berkeley, aux États-Unis, a ouvert il y a plus d'une trentaine d'années maintenant un restaurant du nom de Chez Panisse, d'Alice Waters, grande chef, à qui j'avais demandé en 2018, quand elle était venue s'attabler à la table des bonnes choses, d'où venait le nom de son restaurant.
The name comes from le nom the films
vient
of
des
Marcel
films
Pagnol.
De Marcel Pagnol.
I saw them right before I opened.
Je les ai vus juste avant d'ouvrir Chez Panisse.
And I felt like he shared the same
values. J'ai eu le sentiment qu'on partageait les mêmes valeurs.
The values of the land.
Les valeurs de l'attachement à la terre.
The care of the land.
Du soin apporté à cette terre.
The camaraderie of friends.
La camaraderie, l'amitié autour de la table.
The everyday pleasures.
Le plaisir, les simples plaisirs quotidiens.
Of living together in a community.
C'est de vivre ensemble, de former une communauté.
And I felt akin to that way of life.
Et j'ai eu le sentiment d'adhérer à ce mode de vie.
Voilà, c'est un mode de vie, c'est la convivialité, c'est appartenir aussi à une communauté. Ce qu'on voit d'ailleurs dans les œuvres de Marcel Pagnol, vous dites, Frédéric Jacquemin, que chez Pagnol, la cuisine, elle est partout et elle sert à exprimer toutes sortes de sentiments, à commencer bien sûr par l'amour, mais ça veut dire beaucoup de choses et pas grand-chose à la fois. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Mais c'est vraiment toutes sortes de sentiments qu'expriment à travers la nourriture les personnages des œuvres.
Oui, alors notamment on peut remarquer dans Fanny, donc Panisse qui commence à s'énerver contre César parce que César lui demande de ne pas épouser la petite Fanny et qui lui dit bah écoute quand t'étais petit déjà ça fait 40 ans que tu m'emmerdes en gros hein que voilà tu dérobes mes sucres d'orge que je fais des lignes à ta place et je me suis dit un jour je vais grandir et quelle ratatouille je lui foutrais. Donc c'est une façon aussi de passer par la métaphore où là la ratatouille c'est une grande claque dans la figure. nature. Autre chose aussi, Marcel Pagnol peut se servir de la cuisine pour critiquer un petit peu sur un mode social et très 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 gentil les gens de robe. Par exemple, le docteur Venel qui va gourmander dans Panis, qui est presque à la fin de sa vie, qui est agonisant, et qui dit à Elzéar, qui est venu le visiter pour le confesser, dès que tu viens confesser avec tes huiles, l'agonisant se voit déjà mort. Donc au lieu d'utiliser tes huiles, fais-en de l'aïoli. Donc c'est une façon très gentille, avec beaucoup d'humour, de critiquer les siens.
Et puis peut-être qu'il y a le symbole ultime, le comble peut-être même, c'est la femme du boulanger et ce rôle d'aimable. Vous nous rappelez l'histoire de la femme du boulanger ?
Alors aimable vient de Valensole et puis il s'installe dans un petit village et là il vient avec sa femme qui est jouée par Ginette Leclerc, qui est une très grande beauté d'avant-guerre.
Aimable étant jouée par Rému.
Voilà, par Rému, bien sûr. Et cette femme est absolument magnifique. Et donc, comme dit Pagnol, les vieilles betteraves du cru ne manquent pas de la critiquer. Cette femme est extrêmement jolie et elle va partir avec Dominique, qui devient son amant. Et quand ça se passe, le boulanger aimable ne se met à boire, n'allume plus son feu, ne peut plus cuire un pain. Et c'est une catastrophe dans le village.
C'est une catastrophe dans le village. On écoute un extrait de La femme du boulanger avec Rému, 1938.
Alors, le pain est beau, ça se prépare. L'instituteur est allé jeter un coup d'œil sur la fournée.
Alors, qu'est-ce que vous en dites ?
Eh bien, mon cher, je ne suis pas boulanger, mais enfin, il me semble que cet homme connaît parfaitement son métier et qu'il nous fera du bon pain.
Il en a déjà sorti du four ?
Dans 10 minutes.
Qui sait s'il le fera bon ?
Et pourquoi je le ferai mauvais ?
On ne veut pas dire que tu le feras mauvais, non. Seulement, tu comprends, il y a peine et peine.
Celui qui était avant toi, l'ange, ouais, celui qui s'est pendu dans la cave.
Mais alors, qu'est-ce qu'il faisait, le boulanger, quand il se pendait pas ?
Il faisait du pain.
Ouais. Seulement, ce pain n'était jamais pareil.
Oui, des fois très bon, des fois pas mangeable. Surtout le dimanche, parce que le samedi, il se prenait une cuite à l'anis. Alors, sur les coups de minuit, quand il pétrissait, il savait plus ce qu'il faisait.
Une fois, dans un pain, on a trouvé un bout de cigare.
Et une autre fois, un dimanche matin, le pain avait le goût de l'anis.
Les enfants se sont régalés.
Et vous supportez ça, vous.
Et qu'est-ce que nous pouvions y faire?
Vous allez chercher du pain ailleurs.
Mais nous l'avons fait pendant longtemps. Tu te rends compte, à Vos, 12 km et encore par des chemins de montagne. Alors on en prenait pour toute la semaine.
Il est à l'anis, votre pain, Pascal Paris, au Cigalon de la Treille?
Non, il est à l'ancienne. C'est un pain à l'ancienne que je prends chez mon boulanger. Non, il est tout à fait très correct. Par contre, j'aimerais préciser une chose sur les alouettes. Il faut bien préciser aux auditeurs que les alouettes sans tête, ce sont du paleron, c'est bien du bœuf, et non pas un petit oiseau.
Ah, oui, c'est très important de le préciser, en effet, parce qu'on n'avait pas l'impression que c'était ça. Vous avez bien raison de le préciser.
Chez nous, alors, attention, les alouettes sans tête en Provence, ce sont un émincé de bœuf, donc en général, c'est où dans la pièce noire où ça va être dans le gélatineux, dans le paleron, donc qui sont farcis de petits salés d'ail de persil et qui sont roulés comme une paupiette.
Bon vous voyez, c'était une bonne remarque de parisienne de ma part, vous parlez des alouettes.
Nous, c'est vrai qu'on a certains clients, ils pensent que c'est des petits oiseaux, mais on leur explique parce que ça a la forme des petites alouettes une fois que c'est cuit. Donc c'est tout petit.
Bon, pour rester sur la femme du boulanger, Frédéric Jacquemin, juste un mot parce que vous proposez une recette, la recette du retour d'Aurélie. C'est la fougasse du retour de Pomponnette. Alors Pomponnette, c'était la chatte qui était partie.
Exactement.
Aussi,
et donc elle est partie. Pompon tout malheureux aussi l'attend. Et donc
la fougasse du retour de Pomponnette aux olives et romarin, ça doit être quelque chose.
Oui, c'est tout à fait délicieux.
Quand je me vois dans cette boutique...
Ce n'est pas une boutique, c'est un magasin. Je te le dis pour la 500e fois.
Si tu veux, quand je me vois dans ce magasin, entre la morue sèche et le roquefort humide, ça me donne mal au cœur de discuter sur la qualité des pommes de terre avec Madame Laurie Bouchon, qui veut toujours les payer un sou de moins. Ça ne m'intéresse pas.
Extrait du Spoons avec Fernandel. Alors Frédéric Jacquemin, comment avez-vous imaginé ces recettes parfumées du pays des collines bleues ? À partir des mots, à partir
alors,
des produits
et d'une philosophie. Pardon, excusez-moi. Et donc je remarquais dans tout son cinéma qu'on mangeait beaucoup, Que j'appris aussi que sur les tournages, Marcel Pagnol s'entourait d'une bande de copains qui étaient aussi très très gourmands, et que il y a un rapport entre le babil et les papilles, et que nous avons un rapport à la nourriture, bien sûr, qui est à la fois celui de comment on parle de la nourriture, hein, puisque la gastronomie, c'est l'art de savoir parler, en somme, de ce que l'on mange, et aussi de ce qui va passer au travers du palais. Et donc, je crois que les deux sont intimement liés. Et dans son œuvre, elle l'est profondément. J'évoquais tout à l'heure donc tout ce panorama de senteurs, de couleurs, d'odeurs, de goûts.
La garrigue, la marjolaine, voilà. Le thym, les figues, les fours à main, l'huile d'olive, le pastis, l'aioli, la sarriette, etc., etc.
Et dans toute son œuvre, on peut relever des aphorismes culinaires dans tout son théâtre où la cuisine revient de façon tout à fait humoristique. Je ne sais pas, je peux peut-être vous en lire une ou deux qui peuvent être
Parlantes pendant que vous cherchez laquelle vous paraît la plus probante. Moi, je rappelle que dans votre livre, il y a aussi le Parler des collines où on trouve la coucourde, le cac d'huile, le plat un peu étouffe chrétien comme on dit nous, qui est estouffe. Castagne, le gaoubi, le chichour, le hakané, le verbe assabourer, dont on a les définitions, bien entendu, à la fin de votre ouvrage. Avez-vous trouvé l'aphorisme culinaire qui vous plaît?
Oh, il y en a plusieurs. Écoutez, on va faire ce du beefsteak et de la côtelette. Donc ça, c'est Topaz dans Topaz. Au temps préhistorique, pendant que les hommes dépeçaient la bête abattue et s'en disputaient les lambeaux, les femmes regardaient de loin. Et quand les mâles se dispersaient en emportant chacun sa part, sais-tu ce que faisaient les femmes? Elles suivaient amoureusement celui qui avait le plus gros beefsteak.
Est-ce qu'il y a un beefsteak, Pascal Paris, à la table du Cigalon de la Treille? Je pense notamment, mais vous allez me dire que c'est pas un beefsteak, mais aux pieds et paquets qui sont à la carte depuis 1896.
Alors les pieds et paquets, c'est une institution au Cigalon. On les a, donc la recette existe depuis 1896 au Cigalon, et on vient manger spécialement ici. La plupart du temps, pour les pieds paquets. Toute l'année, on vend toutes des pieds paquets du 1er janvier au 31 décembre. Et c'est vrai que c'est un abat maintenant qui est beaucoup plus goûtu, parce que c'est fait dans la panse d'agneau et non plus dans la panse de mouton. Donc c'est vraiment très très fin.
Tripe de, enfin, farce donc d'agneau, avec un morceau de petit salé roulé en paquets, accompagné de pieds de cet animal, mijoté au moins 8 heures dans une sauce au vin blanc, à la tomate, aux aromates. Est-ce que c'est encore ça?
Alors moi, on les fait au restaurant, on les cuit un petit peu plus. On les cuit pareil, à 82-87 degrés, et on les cuit pendant 24 heures d'affilée.
Bon, est-ce que vous faites une bouillabaisse également, Pascal
alors,
Paris?
C'est uniquement sur commande, parce que le poisson est très cher, donc c'est très très difficile maintenant d'avoir de bonnes bouillabaisses. Donc moi, je la fais uniquement sur commande, je montre les poissons aux clients et ensuite je les travaille 20 minutes après sur leur table.
On peut la faire avec la recette que propose Frédéric Jacquemin dans son ouvrage, puisque Frédéric Jacquemin propose la bouillabaisse du trousseau de la mariée avec les galinettes, comme le chantait Fernandel.
Pour faire une bonne bouillabaisse, il faut se lever de bon matin, préparer le pastis et sans cesse raconter des blagues avec les mains. Les courageux prennent leur canne et vont eux-mêmes la pêcher. Mais le poisson passé ricane, y a plus qu'à l'acheter au marché. Ah, que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon, bon, bon. Ah, que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon.
Pour faire une bonne bouillabaisse, il faut se lever de bon matin, préparer le pastis et sans cesse raconter des blagues avec les mains.
Une langouste est nécessaire, de la baudroie et des favouilles, 12 rascasses, un petit Saint-Pierre, huile, safran, ail et fenouil. Ah, que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon, bon, bon. Ah, que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon.
Frédéric Jacquemin, votre bouillabaisse du trousseau de la mariée avec les galinettes, elle est aussi bonne?
Ah, je ne sais pas. Alors pour moi, elle apparaît cette recette parce que voilà, c'est César et la mère de Fanny discute au bar de la Marine, et en fait on parle plutôt du mariage entre Fanny et Marius, que d'une véritable bouillabaisse. Alors oui, je ne sais pas, peut-être que Pascal pourra nous renseigner. Est-ce qu'on continue à mettre, comme ce fut un petit peu la tradition, un trait de pastis à la fin dans la bouillabaisse pour la relever? Est-ce que c'est le cas?
Moi, c'est ce que je fais. Je préconise toujours un filet de pastis, mais que sur le poisson, pas sur la soupe.
D'accord.
Uniquement un petit peu de pastis, mais légèrement à la cuillère pour arroser mes poissons. Voilà. Mais je la mets pas dans la soupe parce que j'ai déjà comme mon bouillon de soupe cuit déjà avec de l'anis étoilé, donc c'est déjà assez parfumé.
Avec de l'anis étoilé. Bon.
Oui, ça donne. Je fais un petit court bouillon poireau, de l'ail, de l'oignon blanc, ensuite piment d'Espelette. Et ensuite, je mets de l'anis étoilé. Je mets quelques graines d'anis étoilé. Et je mouille donc avec mon poisson. Et je commence à faire revenir mon poisson. Et je vin blanc, pastis. Et un petit peu de pastis, mais légèrement. Voilà, pour tout ressortir. Mais c'est vraiment très léger. Et ensuite, je mouille à la tomate et à l'eau. Et je laisse cuire une demi-heure.
Moi, je pensais, Frédéric Jacquemin et Pascal Paris, que vous alliez nous parler non pas du pastis, en l'occurrence, mais du picon citron curaçao qu'on trouve au bar de la Marine, Frédéric Jacquemin.
Ah oui, avec un tiers de curaçao, un tiers de picon, un tiers de citron. Et alors un grand tiers d'eau.
Tu mets un tiers de curaçao. Fais attention, hein. Un tout petit tiers. Un tiers de citron. Tu vois? Un bon tiers de piquant. Tu vois? Et alors, un grand tiers d'eau. Voilà.
Et ça fait 4 tiers, hein?
Et alors?
Eh bien, dans un verre, il n'y a que 3 tiers.
Mais imbécile, ça dépend de la grosseur des tiers.
Et non, ça dépend pas.
Pourquoi ça dépend pas?
Mais c'est de l'arithmétique, ça.
Frédéric Jacquemin.
Oui, en plus, ce qui est très drôle, c'est que Rémur remet la goutte dans le goulot. Ah non, pas par économie, mais si économie, mais parce qu'il y a un vrai respect de cet apéritif. Et alors oui, concernant l'arithmétique, il faut savoir que Marcel Pagnol était un enfant qui a appris à lire extrêmement tôt. Je pense que c'était un enfant vraiment extrêmement doué, parce qu'il était très heureux de ses parents. Et donc, quand il était petit, il disait, en regardant une lampe tempête, justement à la treille, mais je voudrais donner ma vie à la science. Donc, il y a toujours des problèmes un petit peu d'arithmétique pour les écoliers. Il y a toujours ce regard un peu sur gentil aussi pour ceux qui n'ont pas trop fait d'études et ceux qui en ont fait, mais il y a jamais de regard acerbe là-dessus.
Bon, il faut pas oublier quand même, Frédéric Jacquemin et Pascal Paris, les desserts qui sont aussi très importants, le sucre, les douceurs sont aussi très importantes chez Pagnol, en particulier chez vous, Pascal Paris, au Cigalon de la Treille, on trouve des grosses profiteroles à la mousse de vanille, mascarpone, un tiramisu à la pistache ou la poire au safran, si je ne m'abuse. Et puis, Frédéric Jacquemin, il y a bien sûr les 13 desserts provençaux d'Albertine dans le château de ma mère qu'on trouve dans votre formidable livre, Les recettes parfumées du pays des collines bleues, où il y a aussi la fougasse aux olives et au romarin de Pomponnette, où il y a l'omelette soufflée d'asperges sauvages
la
du Golin.
La pompa à l'œil aussi.
Absolument, la daube aux poulpes et polenta de la fille du Puisatier, et bien d'autres encore. Un grand merci à tous les deux, Frédéric Jacquemin et Pascal Paris.
Merci à vous.
Les recettes parfumées du pays des collines bleues, le livre de Frédéric Jacquemin, est édité par La Maison, les éditions La Maison. Et Pascal Paris, on mettra bien entendu le lien vers votre restaurant, le Cigalon de la Treille. Les bonnes choses s'écoutent aussi quand vous le voulez sur franceculture.fr et sur l'application de Radio France, avec Siam Boutata à la documentation, à la préparation, avec Louise André à la réalisation. Merci beaucoup Louise pour ce formidable travail aujourd'hui, et à la prise de son Élise Le. Nous vous souhaitons un excellent dimanche à l'écoute de France Culture.